C'est un cours que vous n'attendiez pas, parce que on doit varier. C'est pour que la métaphysique ne souffre pas trop longtemps de ne pas s'actuer par le cours. Cette recherche de l'être en acte, c'est sûrement la recherche intellectuelle la plus difficile, la plus pointue, la plus exigeante de l'intelligence. Donc, c'est pas étonnant que vous ayez de la peine à découvrir l'induction par laquelle l'intelligence découvre la primauté de l'acte et l'intelligence de ce principe, qui est le point de vue de la finalité. Historiquement, c'est toujours intéressant à ce point de vue-là, historiquement, ça a été en Grèce l'ultime découverte. Aristote. Platon n'a pas découvert. Alors, à ce point de vue-là, c'est capital quand il s'agit de la finalité de se rappeler la position de Platon. La causalité exemplaire prend tout. Et la causalité exemplaire, c'est toujours la cause formelle. C'est la cause formelle exemplaire. L'exemple. L'exemple est toujours en dehors de nous. Hein. La causalité finale, la causalité formelle me fait découvrir l'immanence, mais le point de vue de la cause exemplaire, c'est toujours en dehors de moi. Un modèle qui devient intrinsèque n'est plus un modèle. Un modèle est nécessairement quelque chose d'extérieur auquel on se réfère. Platon découvre une causalité exemplaire magnifique, mais il ne va pas plus loin. Et la fin, il faudrait ouvrir l'acte, qui n'est plus modèle. L'acte matière. Il exerce sur moi une attraction. La finalité engendre en moi l'amour. Et l'amour me fait sortir de moi pour atteindre le bien. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que la causalité exemplaire. Causalité exemplaire peut être un moyen d'atteindre la fin, peut être aussi un terrible obstacle. Je dirais la plupart des personnes vivent une éthique avec une causalité exemplaire, un modèle. C'est très utile d'avoir des modèles. Et la spiritualité des saints, les saints sont des modèles pour nous. Un saint Thomas est un modèle d'intelligence sanctifié par la grâce. Et je peux très bien regarder saint Thomas comme un modèle merveilleux. Et quand je fais ça, je ne comprends rien, saint Thomas. Je l'admire, mais je n'ai pas compris. Parce que c'est justement celui qui nous fait dépasser la causalité exemplaire. Alors, s'il est pour nous causalité exemplaire, terrible. Celui qui devait nous permettre de dépasser la cause exemplaire nous enfonce dans la cause exemplaire. Au fond, ce serait très intéressant de voir comment dans le thomisme, saint Thomas était regardé comme cause exemplaire et non pas comme fin. La finalité, elle attire. Et elle se cache tout le temps. C'est curieux. La causalité exemplaire, elle se manifeste. Et elle séduit. Et on reste dans cette causalité exemplaire. Alors, on a. C'est très grand la causalité exemplaire. C'est très grand quand on l'a dépassé. Dans la vie, la causalité exemplaire joue beaucoup. Tout l'art, la place de l'art, c'est la causalité exemplaire. Un artiste sait ce que c'est que la causalité exemplaire. Il le sait et il la reproduit. C'est toujours très intéressant d'entendre un artiste parler de la causalité finale. Pratiquement, c'est la causalité exemplaire. La causalité finale, elle est cause des causes. Quand Harrison dit ça, là, c'est vraiment celui qui a découvert ce que c'est que la causalité finale. Cause des causes. Elle est cause de la causalité exemplaire. Cause des causes. C'est-à-dire que toutes les autres causes sont relatives à la fin. Toutes les autres causes sont relatives à la finalité. Et c'est pas commode de regarder la cause exemplaire comme relative à la finalité. Il faut à ce moment-là la dépasser comme cause exemplaire et voir que au-delà de l'exemple, il y a l'acte, le bien. C'est pas étonnant, hein, au point de vue métaphysique, c'est pas étonnant que la recherche de ce en vue de quoi l'être comme être est. Posez-vous la question intérieurement. Ce en vue de quoi l'être est être, sa finalité. C'est lui, hein. Il n'a pas une fin extrinsèque à l'être, parce que ce serait le néant. S'il avait une fin extrinsèque à l'être, ce serait le néant. Alors on aurait l'être ordonné au néant. C'est l'être, c'est l'homme finalisé par la mort. Finalisé par le non-être. C'est alors immédiatement la mort de la métaphysique. Puisque la recherche de l'être conduirait à la négation de l'être. C'est ce qu'on voit chez certains. Qu'au fond, cette métaphysique qui a été découverte par nos ancêtres, on veut la dépasser. Et vous ne pouvez pas dépasser l'être, ce qui est. Vous dépassez ce qui est par la cause finale de l'être. En voyant que l'être se trouve réalisé personnellement dans un être premier. C'est le premier dans l'être, mais c'est pas en dehors de l'être. Et c'est ça qui est toujours la très grosse difficulté. Dieu n'est pas l'être, mais il est le premier dans l'être. Il est prince de l'être. Princeps, prince de l'être. Vous regardez toujours ce que saint Thomas dit à propos, dans la très sainte Trinité, sur le Père, qui est principe. Et c'est très beau, la primauté dans l'ordre de l'être. La fin, c'est ce qui finalise l'être. Et l'acte, cette découverte de l'acte, l'être en acte. Et cette découverte de l'être en acte reste au niveau de l'être. C'est toujours l'être qui est acte. C'est pas quelque chose qui est le surêtre. Comme on l'a dit, ça. Certains vont bien montrer qu'il y a quelque chose qui dépasse l'être, il n'y a rien qui dépasse l'être, c'est l'être. Mais c'est l'être en tant qu'il me dépasse. C'est pas lui qui est dépassé, mais c'est moi. Je suis dépassé par l'acte, toujours, par l'acte d'être. Je suis dépassé par l'être en acte parce que c'est lui qui me finalise. Alors, s'il me finalise, il me dépasse. Et au fond, c'est ça que l'intelligence humaine a toujours beaucoup de peine d'accepter, d'être dépassée. Parce qu'on veut toujours que ça vienne de nous. On n'est pas cause finale. L'être en acte me dépasse et je suis ordonné à lui. Étant ordonné à lui, je suis par le fait même docile à lui. Tout mon être prend sa signification plénière. Je dis bien sa signification plénière. Dans la fin, l'acte. Donc, il faut bien saisir que cette saisie nouvelle, après la substance, saisir la primauté de l'acte, la fin de l'être, comme être. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Ce qui est en puissance, est ordonné à l'acte. Vous voyez donc que cette découverte de l'acte permet de comprendre l'ordre dernier. Il y a un ordre au niveau virtualité et forme, un ordre entre ce qui est en puissance, qui est ordonné à la forme, à la détermination d'un premier ordre, puis à un ordre beaucoup plus profond, un ordre ultime, qui est tout ce qui n'est pas acte est ordonné à l'acte. Et donc, l'acte me donne l'intelligibilité dernière. C'est l'acte qui me donne l'intelligibilité dernière. C'est pour ça que tant que je n'ai pas saisi l'acte d'une réalité, son acte, je ne peux pas la juger. C'est l'acte qui est son ultime perfection. Il est fait pour cela. Il est fait pour ça, c'est ça la finalité, il est fait pour ça. L'être est fait pour exister, pour être en acte. Alors pour être en acte, pour exister, tout ce qui est en puissance ne peut pas se regarder sans s'arrêter. Il demande de se dépasser pour atteindre ce vers quoi il tend, ce vers quoi il est actué. Il ne peut pas rester en puissance. Et s'il n'atteint pas ce vers quoi il est, il reste justement toujours dans l'imperfection. C'est par là que nous comprenons que cette métaphysique de l'acte, qui saisit au niveau de l'être, va être extrêmement précieuse pour comprendre la finalité de mon intelligence. Est-ce que mon intelligence est faite pour l'être ou n'est pas faite pour l'être? C'est un problème très important. Hein, nous faisons de la métaphysique pour devenir intelligent. Uniquement pour ça. Hein. Si vous ne voulez pas être intelligent, ne cherchez pas la métaphysique. Et si vous voulez être intelligent, cherchez la métaphysique. Il n'y a pas d'autre moyen de perfectionner votre intelligence comme intelligence. Parce que l'intelligence est faite pour atteindre la réalité en tant qu'elle est intelligible. Mon intelligence est faite pour cela. Tout ce qui est intelligible touche mon intelligence, intéresse mon intelligence, tout ce qui est intelligible. Et l'intelligence ne sera parfaite que dans la mesure où elle atteint son bien. Son bien, c'est saisir l'intelligibilité de ce qui est. Saisir l'intelligibilité de ce qui est, c'est son bien. C'est pour ça que l'intelligence cherche toujours à atteindre ce qu'elle n'a pas encore atteint. Elle se perfectionne par l'intelligibilité de tout ce qui est. Et ce qui pervertit mon intelligence, c'est de confondre l'intelligibilité de l'être et l'intelligibilité de l'imagination. L'intelligibilité de l'être perfectionne l'intelligence. L'intelligibilité de l'imagination, qui n'est plus une intelligibilité, qui est imaginative. L'imagination a une certaine modalité d'être. Elle existe, l'imagination. Mais elle n'existe pas comme intelligence. C'est très intéressant de comparer toujours l'imagination et l'intelligence, parce que l'imagination comme l'intelligence sont immanentes. C'est ce que je possède. Je possède tout ce que j'imagine. Je possède tout ce que je connais. Et c'est important de voir que toutes les deux, bon, c'est un avoir. Un avoir, un être très imaginatif, c'est toujours très intéressant, jusqu'au jour où il confond l'imaginatif avec le réel. Alors, dès que vous avez découvert ça, vous dites, je ne peux pas compter sur lui. Il vit dans l'imagination. Il considère que ce qui est imaginatif, c'est réel. cette petite expérience que nous faisons quand nous nous réveillons d'un cauchemar, nous nous réveillons. Et puis à un moment où on se dit, ah, c'est un cauchemar. À ce moment-là, vous faites la distinction entre l'imaginaire et le réel. Ah, c'est un rêve. Très intéressant ce rêve. Ce rêve m'a beaucoup ému. Et il peut secouer beaucoup quand c'est un cauchemar. Et il secoue. Mais vous réveillez en disant, ce n'est qu'un rêve. Bon. Normalement, nous faisons tous les jours ce petit passage, cette petite distinction. Mais il y a des personnes qui n'arrivent plus à faire la distinction, qui continuent de vivre un rêve éveillé, et sont dans le rêve, et ne font plus la distinction entre ce qu'ils portent, parce que c'est réel pour eux, l'imagination c'est réel pour moi, tout dépend ce que j'en fais. Si j'en fais la réalité, je m'enferme dans l'imaginaire. Si au contraire, je m'en sers pour fabriquer quelque chose, je peux être un poète, et un grand poète. Parce que l'imaginaire a cette espèce de possibilité de toujours inventer. Alors la création artistique, elle puise constamment dans l'imaginaire, mais elle transforme l'imaginaire, parce que l'imaginaire du grand poète, du grand artiste, c'est un imaginaire qui n'est pas le pur imaginaire de celui qui vit de son imagination. Il y a une différence entre le poète et l'homme imaginaire. Mais il y a une parenté. C'est très très important de saisir la différence entre l'intelligibilité des réalités existantes et l'imaginaire. Nous portons les deux en nous et nous sommes source des deux. Et quand nous sommes fatigués, et quand le monde dans lequel nous vivons est fatigué, c'est un signe de très grande fatigue, ça. De confondre l'intelligibilité du réel et l'imaginaire. Et c'est important de revenir toujours à cette distinction. L'intelligibilité du réel, il permet à mon intelligence de vivre. Je cherche ce qui qualifie mon intelligence. Qu'est-ce qui qualifie mon intelligence? Qu'est-ce qui rend mon intelligence plus parfaite? Qu'est-ce qui permet à mon intelligence de découvrir sa finalité? Quelle est la finalité de mon intelligence? Je dois me poser le problème. J'ai découvert la finalité de l'être, mais quelle est la finalité de mon intelligence? Est-ce que mon intelligence a la même finalité que l'être? Ou est-ce que mon intelligence a sa finalité propre? Pour les idéalistes, la finalité de l'être et la finalité de l'intelligence sont identiques. Pour des réalistes, la finalité de l'être est différente de la finalité de l'intelligence. Alors, quelle est la différence ? Nous sommes tous un peu idéalistes. Il faut l'être un peu, mais il ne faut pas l'être de trop. Il faut justement que la métaphysique soit là pour faire la distinction entre la qualité de l'intelligence et la qualité de l'être. Une intelligence, elle existe. C'est une forme d'être, mais ce n'est pas l'être. La différence entre la saisie de la substance, ce qui est premier dans l'ordre de l'être, et qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligence? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes intelligent? Donc si vous êtes intelligent, vous devez chercher qu'est-ce qui est premier dans votre intelligence. Qu'est-ce qui fait que votre intelligence se perfectionne? Et qu'est-ce qui fait que votre intelligence se dégrade? C'est important, ça. L'intelligence se dégrade chaque fois que vous confondez l'intelligibilité du réel et l'imaginaire. Et donc, quand nous vivons uniquement du virtuel, notre intelligence se dégrade. Et la dégradation de l'intelligence, ça se dégrade très vite. L'intelligence, elle, demeure parfaite quand elle se nourrit de ce qui est. Quand c'est ce qui est qui la détermine. Quand c'est l'intelligibilité de la réalité. Quand c'est mon intelligibilité et non pas mon imaginaire qui la détermine. L'intelligibilité de l'être, ce qui détermine l'intelligence. Mais comme mon intelligence n'a pas un contact direct, immédiat, avec la réalité, qu'elle passe toujours par les sens, et par l'imaginaire, et par la mémoire, il y a toujours possibilité d'une erreur. L'erreur, elle se situe dans un primat de l'imaginaire sur l'intelligible. C'est-à-dire une confusion entre le réel, ce qui est en tant qu'il est, et ce qui provient de mon imagination, ce qui provient de moi. Ce qui vient de moi. Au fond, c'est le grand problème constant de notre vie. Hein. On peut dire, si nous sommes chrétiens, distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. C'est la distinction majeure hein, dans notre vie pratique. Comodo placuat Deo, comment plaire à Dieu. Pour comment plaire à Dieu, il faut savoir ce qui vient de Dieu. Or, la grâce présuppose la nature. Si, au point de vue de la grâce, c'est capital de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de moi, il faut comprendre que cette distinction-là présuppose la distinction naturelle de ce qui est et de ce qui est imaginaire. Oui, donc du tout chaud là à la formation de mon intelligence et profondément à la formation de ce que je dois être. Puisque mon intelligence fait partie essentielle de mon être. Mon intelligence est différente de mon être, mais partie essentielle. Je suis un être intelligent. Et c'est parce que je suis un être intelligent que je peux être transformé par la grâce. Je peux passer du domaine humain à un domaine de ce qui est premier au point de vue de l'être, Dieu. Donc, on touche là un problème très fondamental dans notre vie. Le problème de la vérité. Le problème de la vérité, c'est distinguer ce qui peut, ce qui doit déterminer mon intelligence et ce qui, tout le temps, peut induire mon intelligence, la tromper, la faire prendre une route qui lui fait quitter la vérité. Dès que votre intelligence ne saisit plus ce qui existe, et que votre intelligence demeure uniquement dans ce que vous vivez, ou intellectuellement, ou affectivement, votre intelligence ne se perfectionne plus. Elle confond le réel et l'imaginaire. Donc, vous voyez, c'est le problème central de notre vie, ça. La recherche de la vérité. C'est le problème central de notre vie. Au point de vue surnaturel, nous disons distinguer ce qui est la volonté de Dieu sur moi et ce qui est ma propre volonté sur moi. Et ce n'est pas si commode que ça d'arriver à distinguer les deux. Je dois y revenir souvent pour arriver à distinguer les deux. Et cette distinction surnaturelle, qui est la distinction majeure de ma vie surnaturelle, s'enracine dans cette distinction philosophique, toujours, entre l'imaginaire et le réel. La vérité, c'est d'atteindre les choses telles qu'elles existent. La définition de saint Thomas sur la vérité, adequatio intellectus ad rem, dans le De Veritate. Première question du De Veritate. Il faut y revenir tout le temps, ça. Il ne faut pas croire que vous le comprenez la première fois. Vous imaginez la première fois. Et au fond, c'est très rude, c'est très exigeant. Or, n'oubliez pas, s'il n'y a pas une recherche de vérité intellectuelle, elle conditionne toute votre recherche au plan surnaturel. Celui qui refuse la rectification de son intelligence au point de vue naturel ne peut pas être chrétien. Parce qu'on est un homme. Et un homme, un être intelligent. Et je ne fais pas de mon intelligence ce que je veux. Celui qui fait de son intelligence ce qu'il se veut, met son intelligence au-delà de l'être. On met le cogito premier, la mesure de tout. Et mettre le cogito, la mesure de tout, c'est fatalement, au bout d'un certain temps, s'établir comme mesure de la réalité. Alors, à ce moment-là, la foi devient impossible et la rectitude de l'intelligence devient impossible. Et la vie divine, elle implique une recherche de vérité. Et cette recherche de vérité ne peut pas se faire sur un fondement négatif. Il serait justement le fait d'accepter pas de distinction entre le vrai et l'erreur. Oui, c'est qu'on touche là très très profondément à ce qu'est pour nous notre perfection tout simplement dans l'ordre de ce que nous sommes implique la perfection de l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence, ça c'est un don de Dieu, mais il nous a confié la possibilité de la perfectionner. Et donc, on est responsable, tous, on est responsable de la croissance de notre intelligence. On est responsable de cette croissance vraie, c'est-à-dire que l'intelligence puisse se nourrir de ce qui est bon pour elle. Ce qui est bon pour l'intelligence, c'est la vérité. L'intelligence ne peut pas se nourrir de l'erreur ou simplement de l'opinion. Puisque l'opinion, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, se nourrir uniquement de l'opinion, c'est s'empêcher de croître, de grandir. On ne peut grandir qu'à partir de la vérité. Et une vérité sur laquelle on revient toujours. Le vrai adequatio intellectus ad rem. La fameuse distinction, la fameuse manière dont saint Thomas précise ce qu'est la vérité. Adequatio intellectus ad rem. C'est la réalité qui existe qui est la mesure. La réalité qui existe qui est la mesure de mon intelligence. Mon intelligence se nourrit de l'intelligibilité des réalités, de l'intelligibilité de la réalité la plus parfaite qui est l'homme. Mon intelligence se nourrit de l'intelligibilité de mon voisin qui est un homme, qui a des qualités. Je ne me nourris pas de ses défauts, mais je me nourris de ce qu'il a en lui d'être. Et plus il est parfait, plus il est proche de sa fin, plus il est capable de me donner une nourriture saine. Oui, c'est ce problème de la vérité qui est pour nous capital. Développer notre intelligence dans un sens qui soit juste, dans un sens qui soit conforme à ce que le Père de notre intelligence réclame de nous. Le Père de notre intelligence, Plotin, philosophe, reconnaît que c'est Dieu. si mon âme est créée par Dieu, mon intelligence est créée par Dieu. Et donc, reconnaître quel est le bien de mon intelligence, c'est le vrai. Et je suis capable de discerner ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Et si je ne veux pas discerner la différence entre le vrai et mauvais, je suis moi-même responsable de mon intelligence qui très vite va à la dérive. Parce qu'au fond, toutes les espèces de propagande, confondent volontairement le vrai et l'erreur. Je me souviens, cet Anglais à Fribourg, qui avait été mon étudiant, qui au bout de 2 ans revenait me voir, dit « Mais c'est terrible le métier que je suis. » Parce qu'il était là pour la propagande d'un produit. On doit mêler tout le temps le vrai et l'erreur. Parce que pour faire vendre un produit, il faut nécessairement exagérer la vérité, aller plus loin, l'imaginaire. Il faut trouver le moyen que ça épate, en montrant que c'est tout à fait nouveau. Et c'est vrai. Alors il me disait, est-ce que je dois rester dans ce métier ? Parce que petit à petit, au fond, je vois bien, puisque je dois essayer de mettre en lumière ça comme si c'était le produit sauveur, comme si c'était quelque chose de merveilleux. Je dois constamment mêler la vérité et l'erreur. Et c'est vrai, quand vous cherchez la vérité, vous n'êtes pas très accepté des personnes autour de vous qui ont envie de dire « Mais non, on ne cherche pas tellement. Il ne faut pas se mener tant d'histoires. » On mêle les deux. Bon, qu'on soit obligé constamment d'accepter l'erreur et la vérité. Mais où on est toujours obligé, c'est de chercher la vérité en premier lieu. On ne cherche pas l'erreur. Que cherchant la vérité, l'erreur soit sur le parcours, c'est difficile de l'écarter. Pratiquement, c'est sûr. On vit dans un monde de pécheurs et on est soi-même un pécheur. Donc on est bien obligé. Mais spéculativement, c'est-à-dire la recherche philosophique, qui commande notre vie pratique, la recherche philosophique qui est la base de notre foi, alors elle peut chercher la vérité tout le temps. Et on sait que cette recherche de la vérité, adéquation par rapport à ce qui m'est donné et que je ne peux pas changer. La réalité dans son être propre, pas la réalité telle qu'elle est falsifiée par l'homme, telle qu'elle est changée par l'homme. Bon, c'est déjà plus la réalité. Un poème poétique, magnifique, très beau, mais qui n'est pas vrai du tout, ne peut pas me servir de mesure de la vérité. Je peux faire la distinction entre ce qui est authentique, ce qui est vrai, et puis ce qui est de l'ordre de l'attraction. On dit tout ça pour m'attirer, pour que le produit se vend. On sait, on fait la distinction. Et en faisant la distinction, on reste. Christ dans la vérité. Il y a une exigence. C'est ça qu'il faut comprendre. Que la métaphysique doit rectifier notre vie intellectuelle. Et rectifier notre vie intellectuelle, c'est dans la mesure du possible de rechercher la vérité. La recherche de la vérité, c'est terriblement pratique. Dans le sens que c'est mon intelligence qui se perfectionne. C'est pas mon intelligence qu'on laisse gambader à droite et à gauche. Non, c'est mon intelligence que j'essaie de lui donner quelque chose de vrai. C'est son, mon intelligence se nourrit du vrai. Elle ne se nourrit pas du mensonge. Elle ne se nourrit pas de l'opinion. Elle se nourrit du vrai, ce qui est. Et c'est cela seul qui est le vrai, ontologique, et qui est la nourriture de mon intelligence. Oui, c'est pour ça que cette recherche de la vérité, comme ce qui perfectionne mon intelligence, est absolument capital pour que mon intelligence reste fille de Dieu, que mon intelligence reste un fruit direct de Dieu qui m'a donné une âme spirituelle, une âme capable de connaître. Et cet agrandissement de mon intelligence, cette intelligence qui se développe, j'en suis responsable. Et je suis responsable de faire le mieux possible le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est mauvais. Oui. C'est en ce sens-là qu'on n'a pas le droit de lire n'importe quoi. On n'a pas le droit. Si vous devez le faire, ça fait partie de votre métier, très bien, vous le faites, momentanément. Mais vous revenez vite à ce qui est pour vous une nourriture saine. Parce que mon intelligence, je l'éduque. Et je dois arriver à discerner ce qui est imaginaire de ce qui est l'intelligibilité réelle de la réalité. Je dois faire la différence entre l'imaginaire qui ne nourrit pas mon intelligence, l'imaginaire nourrit l'imagination, et dans le monde d'aujourd'hui, l'imagination se nourrit assez. C'est pas tellement nécessaire de vouloir la nourrir en plus. On est dans un monde imaginaire extraordinaire. Et puis, la vérité, ce qui est au fond la recherche constante dans laquelle on doit être. Et on est responsable. On est responsable du développement de notre intelligence. Ne disons pas trop vite la métaphysique, c'est trop difficile pour moi. C'est pas vrai. Vous pouvez dire ça des mathématiques, parce que ça ne s'enracine pas dans le point de vue de l'intelligence comme intelligence. Mais la recherche de ce qui est vrai est pour tout le monde. La métaphysique, elle est pour tout le monde. Puisque la foi ne peut utiliser mon intelligence que dans la mesure où elle cherche le vrai. Si mon intelligence ne fait plus la distinction entre le vrai et le mensonge, l'erreur, elle donne à ma foi une nourriture mauvaise. Et donc je contamine ma foi. Alors, je suis responsable du développement de la foi. Je suis responsable du développement de mon intelligence. Puisque la foi est reçue dans mon intelligence. Si, de fait, je ne faisais aucune attention entre le point de vue de l'erreur, l'opinion fausse et la vérité, alors évidemment, je peux confondre les deux. Mais dans la mesure où je peux, et dans la mesure où je n'arrive pas moi-même à faire la distinction, j'ai des amis qui m'aident. J'ai le prochain qui m'aide. Il y a dans beaucoup de domaines où la passion aveugle et on n'arrive pas à voir clair. Mais on a toujours la possibilité de demander. Et ayant la possibilité de demander, on s'éclaire. Et l'intelligence, le point de vue de la foi, ne peut se nourrir que du vrai. La foi ne peut pas se nourrir de l'erreur. La foi étant divine, elle a cette exigence très grande de se nourrir que du vrai. Et le vrai, nous pouvons tous l'atteindre. C'est une réalité métaphysique, c'est pas le vrai du mathématicien ou le vrai du scientifique dans tel ou tel domaine. C'est le vrai métaphysique. Conformité de l'intelligence avec ce qui est. Il faut ruminer ça, hein, conformité de l'intelligence avec ce qui est. Et notez dans ce domaine-là tout ce qui peut vous empêcher de comprendre cela. Parce que c'est très simple, hein. Conformité de l'intelligence, de ce que je connais avec ce qui est. Mon intelligence est faite pour le réel. Elle ne peut se nourrir que dans ce qui est conforme.